France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Elles peuvent être petites ou énormes, rondes ou ovales, allongées ou bombées, orangées, jaunes d'or, blanc crème, vertes, lisses ou cannelées, monochromes, rayées ou tachetées. Elles sont parfaites pour les soupes et autres veloutés de l'hiver, mais pas seulement. Et certaines d'entre elles ont la cote. Dans notre panier ce midi, nous avons mis la courge. Et pour en parler, nous sommes avec un producteur. Erwan Imbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maraîcher, fondateur de la ferme des Préneufs à Longpont-sur-Orge. Et vous produisez quelques 5 tonnes de courge par an avec une vingtaine de variétés. À vos côtés se trouve une spécialiste, on peut le dire comme ça maintenant, Hélène Bordery, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en cuisine et en gastronomie au sens large du terme, mais vous avez écrit un livre qui s'intitule Courge tourjou, courge toujours, et c'est au ça. Pluriel, parce que nous allons le voir, il y a une infinie variété de courges. Ce livre a paru aux éditions Marabout en 2022. Quel est votre rapport à la courge, j'ai envie de dire, l'un et l'autre? Erwan Imbert, vous êtes un fou de courge, vous faites pas que de la courge hein, chez vous, dans la ferme des Préneufs à Longpont-sur-Orge, mais vous en faites quand même beaucoup. Vous êtes un fou de courge?
Je suis assez fan des courges, oui. Pour une première raison, c'est que ça nous fait quand même presque 6 mois de commercialisation à la ferme et que j'ai lancé la ferme pour nourrir des gens, pour leur donner des choses qui ont du goût. Et donc, je fais ce qu'on appelle le métier de maraîcher diversifié. Et on a une quarantaine de légumes différents, dont les courges, qui représentent une grosse part de notre production.
Hélène Bordery, c'était un choix assumé de faire ce livre sur les courges ?
Absolument. Je me suis posé des questions quand j'ai vu toutes les variétés dans certains magasins à Paris. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'il y a un livre qui rassemble plein de courges et de recettes? Et j'ai pas trouvé mon bonheur, donc je me suis dit, je vais le faire. Donc voilà, comme quand j'ai une idée dans la tête, je la garde bien jusqu'au bout. Je me suis dit, je vais faire un livre et je vais donner des idées aux gens parce que j'ai pas envie qu'on mange des tomates en hiver. J'ai envie de montrer qu'on peut faire plein de choses avec les courges, qu'il y a plein de variétés différentes et que c'est super fun.
On va en manger, enfin on en mange en général en été, mais ça s'appelle plutôt des courgettes. Et on en mange beaucoup à l'automne et en hiver. On est en plein hiver, donc c'est quand même la saison pleine des courges, Erwan Imbert.
Oui, là, on est vraiment au moment où c'est les produits les plus intéressants, d'autant qu'elles mûrissent au stockage. Et donc, quand on commence à les manger, elles n'ont pas le même goût que quand on est en pleine saison.
Qu'est-ce que c'est une courge? Est-ce qu'on a une fiche d'identité possible? On sait que c'est de la famille des cucurbitacées. J'aime beaucoup ce nom à chaque fois.
Oui, c'est une famille qui est très très large, qui va de la chayotte, qu'on mange surtout à La Réunion, mais qui peut pousser en Île-de-France et qui ressemble plus à un fruit, à des choses qui sont non comestibles et qui sont décoratives. Et entre les deux, on a tellement de familles que même moi qui essaye de me spécialiser là-dedans, je m'y perds et je suis obligé de reprendre des tablettes pour m'y retrouver.
Vous avez la reine de la table royale, qui est une courge à cornes. À cornes, ça veut dire gland en français. Donc cette courge aussi, elle a un parfum qui n'est pas du tout le même que toutes les autres courges. Les pâtissons, alors j'en ai des verts, des jaunes, des oranges et des blancs, bien entendu. Vous avez la butternut, qui est une qu'on appelle en français noix de beurre, qui est une courge américaine qui est extraordinaire aussi, qui est très bonne, qui est très proche d'ailleurs du petit marron que je vous expliquais tout à l'heure. Je sais pas, mais la sucrète du Berry, pour parler des variétés un petit peu françaises. Vous avez la ronde d'Argentine. Vous avez la plate blanche, vous avez la comment je pourrais dire, il y en a plein. La courge olive, c'est une très vieille variété française qui est comme une olive mais très grosse. Hein. C'est une géante olive.
Voilà, c'était un extrait d'une émission Carnet d'été sur France Culture en 1988. Taïsia Froidir, notre réalisatrice, en a extrait 1 minute sur 6 minutes d'énumération qui continue comme ça. Est-ce qu'il y en a toujours autant, Erwan Imbert, des courges, des variétés de courges?
Il y en a beaucoup plus. La corne, je l'ai faite, elle est effectivement fabuleuse, mais j'arrive pas à la vendre. Par contre, on a optimisé beaucoup de courges, parce que les courges s'hybrident assez facilement. Et donc, dans tous les pays, y compris en France, on améliore chaque année les courges en sélectionnant et en trouvant des caractéristiques qui nous intéressent, que ça soit pour le goût, la qualité, la conservation, la taille. On optimise tout le temps.
Vous avez encore la citrouille des marais Vernier. Alors les courges d'Eubar, il y a la Eubar verte, la Eubar jaune, la Eubar comment je peux dire verte jaune, et puis il y a une autre bleue. Hein, c'est un vert bleuté un petit peu. Vous avez la courge musquée de Provence qui est très drôle aussi. Et les parts sont faites déjà, hein, c'est curieux d'ailleurs.
Voilà, on peut continuer très très longtemps. Hein. D'ailleurs, Erwan Imbert, je crois que vous proposez aussi la melonnette Jaspé de Vendée, la cara, la courge spaghetti, la courge Hokkaido. En nouveauté, la shiatsu. Et c'est autant de variétés de courges qu'on retrouve dans votre ouvrage, Hélène Borderie. Alors que on sait aujourd'hui qu'on mange peut-être essentiellement deux variétés de courges. Pour le dire clairement, le potimarron et la butternut. Donc l'idée, c'est quand même de montrer, je pense, hein, dans votre ouvrage, qu'il en existe vraiment des dizaines, voire des centaines. En revanche, on peut les regrouper en trois grandes familles. Exactement. Sinon, on est complètement perdu.
C'est ça. Donc il y a trois grandes familles de courges. Il y a les courges Maxima, Moscata et Pepo. Et en gros, pour les différencier, Maxima, c'est un peu celles qui ont un pédoncule spongieux. Erwan, tu
Erwan
m'as dit.
Sourit.
Voilà.
ça a l'air d'aller.
C'est aussi les plus grosses en général.
C'est aussi les plus grosses, voilà.
Comme la citrouille, le potiron.
Le potiron, ouais. Comme le potiron. La citrouille, c'est plutôt Pepo.
Alors, citrouille, pour moi, c'est vraiment le genre de chose où je sais même pas de quoi on parle, quoi.
Bah,
j'allais vous demander la différence avec le potiron.
C'est un langage vernaculaire et en fait, il y a des citrouilles un peu partout, quoi.
Oui, oui. Ouais. Bah, c'est surtout la citrouille d'Halloween qu'on va utiliser pour Halloween. On va pas vraiment la manger. D'ailleurs, elle a pas vraiment d'intérêt
gustatif. On la mange plus vraiment. On mange surtout
pas
du potiron.
Oui.
Donc on la met de côté. Cucurbita, Pepo.
Pepo, voilà. Donc là, il va y avoir tout ce qui est toutes les petites courges, donc les courgettes pour l'été, le patidou, il va y avoir aussi la spaghetti, le pâtisson ou la delicata qui est une courge un peu longue, tachetée, un peu avec du blanc, du orange et du vert. Et sinon après on a la famille Moscata, donc c'est toutes les courges musquées. On entendait tout à l'heure la courge musquée de Provence, aussi la butternut, et donc là pour les reconnaître, on regarde le pédoncule et il est anguleux. Et c'est des courges qui ont un intérêt parce que leur chair se rapproche de la pomme de terre. Donc du coup, moi je sais que dans le livre, j'ai fait pas mal de recettes avec parce qu'elles se tiennent bien.
Erwan Imbert.
Tout à fait. Moi, j'aime bien la longue de Nice, qui va être commercialisable aussi bien en courgettes petites qu'en très très longues, jusqu'à 2 mètres de long, et superbe pour faire des tas de choses.
Qu'est-ce qu'on sait, Erwan Imbert, de l'histoire des courges?
Alors, l'histoire est assez ancienne et se retrace aux Amériques. Alors, il y a l'Amérique centrale, il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Amérique du côté du Brésil. À l'époque, c'était pas très bon, les courges, et c'est quelque chose qu'ils ont optimisé. C'était tout petit, un peu comme l'histoire du maïs qui était minuscule au Mexique. Moi, c'était des choses qui étaient pas très bonnes. Et au fur et à mesure, ils ont sélectionné soit pour avoir des grosses graines et avoir du gros fruit avec de la chair, soit plutôt pour en faire des courgettes qu'on va manger immatures, soit pour avoir des choses qui vont se conserver l'hiver et qui vont conserver très longtemps.
Les premiers vestiges ont été retrouvés au Mexique, mais nous avons retrouvé la courge mère.
Les primates que nous sommes, à un moment donné de leur vie, je vous rappelle qu'on était une espèce frugivore, qui vivait donc en un premier temps dans des forêts vraisemblablement riches en cucurbitacées, bien, il y a un moment où on a dû se rendre compte qu'en fait, la cucurbitacée était à la fois la soupe et la soupière, et on s'est mis à utiliser la coque qu'on a peu à peu ornementée, agrémentée. Il y a de très fortes chances, bien qu'on n'en aura jamais aucune preuve absolue, que l'usage des calebasses pour aller puiser de l'eau, eh bien, nous vienne vraiment de la nuit des temps, de notre passage j'ose pas dire du singe, mais enfin du primate sauvage au primate civilisé.
Archivina des chemins de la connaissance en 1990, la soupe et la soupière, la courge à l'origine de la calebasse, qui est à la fois courge, soupe et soupière. On trouvait ça assez joli à vous faire entendre. Donc, ce qu'on sait, c'est que la courge a été importée en Europe aux alentours du XVIe siècle par les conquistadors, en même temps que la tomate, les piments,
oui, on prête le cacao, le maïs. Oui, on prête beaucoup de choses à Christophe Colomb.
Peut-être. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça n'a pas toujours eu bonne réputation, Hélène Borderie. Il y a 50 ans, on n'en mangeait quand même pas autant qu'aujourd'hui.
Oui. Moi, j'ai un souvenir de ma grand-mère qui me dit mais moi, quand j'étais jeune, on mangeait vraiment pas ça, quoi. C'était pas ce qu'on avait sur les étals et on connaissait même pas. Enfin, elle en a même pas mangé quand elle était enfant. Et aujourd'hui, c'est à la mode. Donc, comme tous les légumes anciens qui reviennent à la mode. Et puis, c'est surtout que, comme disait Erwan, comme il y en a pendant tout l'automne et tout l'hiver, il y a un moment, faut bien qu'on mange quelque chose de saison. Et donc, faut qu'on cherche des variétés et des façons de les cuisiner qui sont un petit peu originales, parce que sinon, avec la soupe, on s'ennuie un petit peu, quoi.
On sait aussi que courge, ça veut dire quand même personne stupide. Hein. la pauvre courge, la mauvaise réputation de ce point de vue-là. Et fut un temps, Erwan Haber, où on donnait la courge à manger aux vaches.
Oui.
C'était vraiment la chose qu'on ne mangeait pas.
Quand j'ai discuté avec des vieux paysans que j'ai croisés, ils me disent « Oh bah ça, c'est de la courge à vache, quoi. des choses que, donc, souvent les gens, quand ils les voient, ils appellent ça des citrouilles, et ça leur fait penser à une soupe qui n'a pas de goût. Effectivement, c'est quelque chose qui peut aussi nourrir les ruminants. Alors, on dit les vaches, mais il n'y a pas que les vaches qui peuvent manger ça.
Alors, c'est l'apparition, dans les années 70, du potimarron, le potimarron doux d'Hokkaido qui a tout changé. Il a d'abord été introduit en Flandre, puis popularisé grâce à un homme qui est pionnier de l'agriculture bio en Europe, qui en a fait l'un des fleurons de sa ferme expérimentale, la ferme Sainte-Marthe, véritable conservatoire de graines anciennes en Sologne. Et cet homme est avec nous par téléphone. Philippe Desbrosses, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Alors, ça vient du Japon, le potimarron?
La souche que j'ai récupérée, moi, oui. Ils avaient d'ailleurs l'appellation de potimarron doux japonais à l'époque, ou potimarron doux de Chine. Donc ça veut dire qu'il y a une branche qui s'est échappée du Brésil et qui est allée par le détroit de Bering peut-être descendre sur le Japon. Et les courges sont répandues dans le monde entier maintenant, évidemment. Hein.
Voilà. Racontez-nous dans quelles circonstances vous l'avez goûté pour la première fois. C'était en 1973.
1973, j'ai dégusté, c'est un potage exceptionnel avec une joyeuse tablée d'amis. Et puis, c'est fait une révélation. Le potimarron enflammait mes papilles et mon imaginaire et je ne m'ai jamais quitté depuis. D'ailleurs, j'ai été un fervent promoteur dans les années, je revois tous les articles de presse que nous avons suscités. Donc, je suis très, très heureux de ça. Mais ça prouve que il y a toujours des choses à découvrir dans nos collections de plantes de végétaux, hein, de végétaux nutritionnels. Et surtout celle-là, en plus, non seulement elle a bon goût, mais en plus c'est une mine d'or de vitamines. Hein.
C'est-à-dire
une mine d'or de vitamines. Ben, c'est-à-dire que vous avez toutes les vitamines A, B, C, D, E, S, K, M. Et je vous parle là.
On va jusqu'à Z, ok.
je vous parle de recherches scientifiques qui ont été faites. J'ai participé d'ailleurs à l'Institut de Nutrition de Tours, mais aussi à Bruxelles, où vraiment il y avait un travail de fait que j'ai suscité d'ailleurs à l'époque, puisque je m'occupais du développement de l'agriculture biologique au niveau international. Et je pense que c'est une des plantes les plus exceptionnelles. D'ailleurs, c'est pas par hasard que ça donnait la citrouille de Cendrillon, le carrosse de Cendrillon. Hein. Il y a toute une histoire extrêmement jolie autour de ces variétés-là.
Et donc, il faut rappeler que vous avez contribué, Philippe Desbrosses, au succès du potimarron en France. Vous avez même déposé le nom de potimarron pour qu'il soit préservé en 1986. Un grand merci, Philippe Desbrosses, de nous avoir raconté l'origine du potimarron en France. Potimarron, donc, qui est plein de bonnes choses, Erwan Haber. Il y a tous les atouts, ce potimarron. C'est peut-être pas pour rien que c'est ça, aujourd'hui, qu'on mange beaucoup.
Il a beaucoup d'atouts nutritionnels, comme il dit, gustatifs. C'est aussi pour ça qu'il plaît beaucoup aux clients sur les marchés. Il est relativement facile à cuisiner. La chose que les gens ont perdu l'habitude, c'est qu'on peut les manger crus aussi. On peut les râper juste sur des pâtes, par exemple, pour donner un petit succès au plat.
Et vous, là, c'est 80 à 90% de vos ventes, c'est quand même du potimarron?
Alors, moi, c'est ce qu'on me dit. Moi, c'est un peu moins le cas, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui adore le goût et la variété.
Léger goût de châtaigne,
donc,
hein,
le potimarron. Je fais, par exemple, le doux vert d'Hokkaido également, qui permet aux gens de s'introduire aux nouvelles variétés en se disant, bon, ça ressemble au potimarron, peut-être que je peux tenter de le cuisiner ou de le manger. Et après, de passer sur d'autres choses un peu plus différentes et sexy.
Quand même, Hélène Bordery, le potimarron, taille idéale, goût délicieux, texture ferme, peau comestible, facile à cuisiner.
Très facile. C'est vrai que le fait qu'on n'a pas besoin de la peler, c'est vraiment idéal. Après, elle est quand même très dure à couper. Moi, je sais que...
Couteau.
Oui, il faut un très bon couteau. Et puis, par rapport à la butternut, par exemple, qui se coupe très facilement. Mais le potimarron, les graines, elles s'enlèvent super facilement. En plus, on peut les faire griller pour les manger derrière. Donc, c'est assez idéal.
La butternut qui se coupe facilement, faut le dire vite, quand les butternuts sont grosses, ça se coupe vraiment pas facilement non plus, Erwan Imbert.
Alors oui, ça dépend des modèles, et il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Celles qui ont la forme de cacahuète, on arrive bien à les poser et après les couper. Oui. Après, moi, comme les poissonniers, des fois, je propose à mes clients de leur fournir la courge découpée.
Oui.
Ah, ça c'est pas mal. Il est midi 16 sur France Culture, vous écoutez les bonnes choses d'aujourd'hui qui portent sur les courges.
La courge, la cucurbitacée, le melon, la pastèque, c'est quand même dans l'esprit, je crois, dans l'esprit des gens, même si c'est un peu inconscient, c'est bâtard comme fruit. C'est pas quelque chose de noble. Il est rare d'avoir un légume qui soit aussi controversé, alors qu'on peut faire des choses merveilleuses avec un gratin de courge ou une bonne soupe de courge, c'est extraordinaire. Puis ça veut dire, il y a plein de choses sur le plan pratique. On prétend que ça peut pas se conserver, ça ne peut pas se congeler, ça peut pas ceci. Il faut aussi aimer suffisamment les choses pour découvrir comment les utiliser. En toute chose, c'est ça. Et la courge, moi, j'aime assez la courge pour vous dire que j'ai trouvé comment la conserver. Et si vous la mettez au congélateur comme ça, et en la décongelant, vous ne pourrez rien en faire. C'est devenu une éponge, c'est pas intéressant. Donc il faut d'abord préparer la soupe, et c'est ça que vous congelez. Et je vous assure qu'après, c'est délicieux, délicieux.
Il va falloir plonger dans l'assiette avec les courges. On y va grâce à cette Archivina de 1993 sur France Culture. Émission Coda, le son des calebasses avec Jean-Louis Favier qui nous parlait là de la conservation. D'abord, avant même de savoir ce qu'on mange, comment conserver? Est-ce que c'est dur à conserver, Erwan Imbert? Est-ce que c'est dur à conserver? En particulier, on parlait des potimarrons. Est-ce qu'on peut les congeler?
Alors, c'est déjà dur à conserver pour les maraîchers. C'est pour ça qu'on a des recherches variétales. Là, dans mon catalogue, il y a au moins 8 variétés différentes. Certains vont être optimisés pour arriver vite en saison, d'autres qui vont être capables de tenir 6 mois. Pour conserver une courge chez soi, en fait, on a les températures quasiment idéales, ce qui fait que c'est à la fois décoratif, en même temps que d'être gustatif. Et on a plein de couleurs différentes, donc quand on s'échappe des potimarrons, quand on prend le patidou, la délicata, ben voilà, ça, là, c'est très très joli, quoi.
Et c'est pour ça que ça intéresse aussi beaucoup les chefs. D'ailleurs, vous, Erwan Imbert, comme producteur, vous produisez aussi bien pour le réseau AMAP que pour des chefs de restaurants de haute gastronomie comme Manon Fleury, comme Pascal Barbeau, comme Sugio Yamaguchi. Et nous sommes avec une chef, Amandine Chéniaud, qui nous a rejoint. Bonjour Amandine Chéniaud. Non, Amandine Chéniaud n'est pas encore là, mais elle arrive, me dit-on. C'est le coup de feu chez Amandine Chéniaud, qui est chef de Sauge, qui a ouvert cet automne, l'automne 2024, à Réveillon dans le Perche, et Amandine Chéniaud nous a rejoint, me dit-on. Elle est là. Bonjour Amandine Chéniaud.
Bonjour à tous.
Je crois que c'est le coup de feu chez vous, c'est normal, il est midi 20. Nous sommes autour des courges, et je crois que les courges, c'est un légume que vous estimez particulièrement, notamment, vous n'êtes pas forcément très original, le potimarron, vous l'aimez beaucoup.
Ouais, j'aime bien sa texture, j'aime bien son goût. Moi, j'aime pas trop les courges qui sont un peu filandreuses, comme les grosses courges. Et le potimarron, c'est vrai que déjà, on en trouve très facilement. Et puis, il se prête à plein de choses, plein de préparations et toujours très facilement.
Par exemple, vous faites quoi, vous, avec une courge?
Alors évidemment, on fait des soupes, on fait des purées. Moi, j'aime bien aussi de temps en temps faire des tartes. Et puis une petite recette que j'aime bien, c'est faire une purée un petit peu épaisse qu'on va servir un petit peu comme dans l'esprit d'un houmous. Dans un fond d'assiette, on met notre petite purée, puis après on condimente avec ce qu'on a envie. Moi, j'aime bien utiliser de la sauge frite qui fait un petit peu écho au nom de mon nouveau restaurant dans le Perche. Mais on peut s'amuser avec des raisins secs, de la coriandre, quelques noisettes, pourquoi pas de l'ail noir. Et ça fait une recette un petit peu sympa qu'on met au milieu de la table comme ça, avec une petite brioche toastée, par exemple, à tartiner, ou quelques petits graissins ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une recette très agréable à partager, facile.
Et d'ailleurs, vous nous proposez une recette facile à faire et délicieuse, la pulpe de courge, sauge et ail noir que nous mettons sur notre page internet Amandine Chéniaud. On peut tout faire avec les courges, Hélène Bordery. Ah, Amandine Chéniaud. Oui, Amandine, on peut tout faire avec les courges?
On peut faire plein de choses. Alors, suivant les courges, on a des textures et des taux d'humidité qui sont différentes. Donc, faut bien faire attention à la courge qu'on choisit. Mais on peut s'amuser à faire des gnocchis, on peut faire des soupes, on peut faire des purées, des compotes, on peut aller sur du sucré. Enfin, c'est vraiment la porte ouverte à plein de recettes.
Hélène Bordery, vous qui êtes l'autrice de Courge Tourjour, on le voit très clairement dans votre ouvrage, hein. Je les ai pas comptées, les recettes, mais il y en a un certain nombre avec.
Il y en a 60.
Voilà, il y en a 60 avec presque 60 variétés de courges, puisque l'idée, encore une fois, c'est de montrer qu'on n'a pas que du potimarron et du butternut, mais vraiment beaucoup d'autres variétés possibles. Et on fait pas que des soupes.
Pas du tout. Alors les soupes, c'est vraiment pour moi le premier step. C'est vraiment le plus facile. Mais après, on peut faire des gratins. Moi, j'aime bien par exemple le gratin d'hiver, qui est un peu une sorte de gratin dauphinois avec du butternut, de la patate douce et des pommes de terre. Donc ça rajoute des légumes. On peut faire un gâteau, par exemple. Moi, je fais un brownie avec de la purée de courge et ça remplace
sucré,
le beurre.
Sucré, vous voulez dire?
Sucré, exactement.
On mange aussi des courges en dessert.
On mange des courges en dessert, absolument. Et au lieu de mettre 200 grammes de beurre dans mon gâteau au chocolat, je mets que 50 grammes et je remplace les 150 grammes restants par de la purée de courge. Ça marche super bien, c'est très gourmand. On n'est pas du tout sur un gâteau régime et c'est très agréable. On peut les manger froides en entrée, par exemple, comme des carottes râpées. On peut les manger farcies, on peut les manger dans une pâte. Moi, j'adore faire des tartes. Donc, je fais des tartes rustiques avec des petites courges dedans, un peu comme une tarte à la courgette, par exemple. On peut aussi faire des tartes à la courgette. Et puis après, on peut faire juste griller à la poêle, caraméliser en dessert ou même en entrée, un houmous aussi, tout.
Amandine Chéniaud, vous êtes encore avec nous?
Oui, je suis là.
Est-ce que ce que dit Hélène Bordery, ça vous inspire de nouvelles recettes ou est-ce que vous n'apprenez rien? Moi, j'apprends plein de choses, hein, mais vous êtes chef.
C'est sûr que, oui, la possibilité sont quasiment infinies. C'est vrai que cru comme ça, râpé comme des carottes râpées, j'avais pas encore pensé ça. Nous, on fait des pickles parfois crus, mais assaisonnés et râpés comme ça, tout fin, on n'a jamais fait aussi.
Qu'est-ce qu'on fait des graines, Erwan Imbert? Je m'adresse aux producteurs maraîchers que vous êtes.
Alors, les paysans, en général, les stockent et les trient pour pouvoir les ressemer. Mais c'est relativement compliqué parce que ça s'hybride très vite. Donc, il faut avoir isolé nos variétés ou avoir fait des manips spéciales au champ avec des voiles ou avec des pinces pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de mélange et qu'on sache s'y retrouver. Sinon, elles sont très, très bonnes à manger.
Graines de courge, on dit.
Voilà. Sauf qu'il y a un emballage qui est assez compliqué et qui dépend de la taille de la courge. Alors, moi, je fais une variété qui s'appelle Lady Godiva. Du nom d'une dame indienne, paraît-il, qui se baladait toute nue. Et donc, ces graines-là n'ont pas l'emballage. C'est celle que vous voyez en général dans les magasins, où elle est verte et on peut quasiment la manger crue, et encore meilleure, à peine toastée au four ou à la poêle.
Amandine Chéniaud, les graines de courge, vous les utilisez?
J'adore ça. Et il y a un truc donc, que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est l'huile de pépins de courge, qu'on trouve en petites épiceries spécialisées, qui ont vraiment des notes... avec une très grande profondeur, beaucoup de puissance, et ça fait des très beaux assaisonnements.
Merci beaucoup, Amandine Chéniaud. On va vous laisser rejoindre les cuisines de votre restaurant. Voilà, Sauge, à Réveillon, dans le Perche. On peut aussi vous retrouver à Pouliche, à Paris notamment. Et nous mettons donc votre recette de pulpe de courge, sauge et ail noir sur notre page internet. Merci beaucoup. Hélène Bordery, vous aussi, vous nous avez offert une recette qui fait lien avec l'émission de la semaine dernière.
Oui.
Puisque c'est une tourte.
C'est vrai. J'ai écouté l'émission de la semaine dernière et effectivement, j'ai choisi la tourte, volaille, courge sucrine et champignons. Et j'adore cette recette. Parce que c'est pour moi c'est le summum de la gourmandise, c'est-à-dire que c'est une espèce de ragoût bien mijoté qu'on va enfermer dans une pâte hyper croustillante et ça pour moi ça fait clairement écho avec l'émission de la semaine dernière parce que c'est hyper réconfortant.
Qu'est-ce que c'est la courge sucrine ?
La courge sucrine, ça se rapproche un petit peu de la butternut en termes de forme et de couleur. Enfin, ça reste dans la famille des courges musquées. Un petit peu plus ronde au niveau des fesses. Et pour moi, c'est une courge qui se tient bien, qui est un petit peu filandreuse, mais pas trop non plus, et qui est assez sucrée.
Erwan Imbert.
Oui, très orange. C'est une vieille courge
française. Très orange, avez-vous dit?
Très orange, oui. Et un petit peu plus aromatique aussi que la butternut. La butternut, moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, comme elle n'est pas très forte en goût tout en étant goûteuse, on arrive à faire ce qu'on veut. Et notamment, deux saisons, moi, je fais de la frangipane à la courge. C'est-à-dire que, comme dans ta recette où tu remplaces le beurre, bah, tu peux remplacer une partie de la matière grasse de la frangipane, ce qui fait que la frangipane devient extrêmement légère, surtout quand elle est bien fouettée. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une galette des rois qui, en général, réconcilie ceux qui n'aiment pas la frangipane.
Mmh, voilà pour le tome 2,
ouais,
courge toujours.
C'est clair.
Hein. Est-ce qu'il y a des bons accords? Est-ce qu'on sait avec quoi se marie bien, malheur dire, telle ou telle courge? C'est ça qui est peut-être encore plus compliqué, Hélène Bordery.
De manière générale, moi, je sais que la courge, j'aime beaucoup l'associer avec des épices, parce que c'est vrai que comme elle est assez sucrée et assez douce, c'est vrai que j'aime bien mettre de la noix de muscade, du curry ou du paprika, par exemple. Après, elle s'accorde très bien avec des corps gras, donc du tahini, de la purée d'amande ou même du piment aussi, ça s'accorde vraiment bien. Et avec tout ce qui est produits laitiers, donc de la crème, du lait, moi j'adore.
D'ailleurs,
du fromage.
Du lait de coco, une recette toute simple, c'est-à-dire que je sais faire moi, par exemple. C'est une recette de velouté, on va dire, de potimarron, que vous n'épluchez pas. Si vous n'avez pas le bon couteau, on peut dire qu'on peut plonger le potimarron dans de l'eau bouillante une dizaine de minutes, je parle sous votre contrôle quand même, ou on peut même le mettre 15 minutes dans un four chaud pour que le légume se ramollisse bien, mais quand même, il suffit d'acheter un bon couteau pour le couper. On le met dans une casserole avec du lait de coco, un petit peu de curcuma, poivre, sel, un petit peu de gingembre, et ça fait une soupe ou un velouté délicieux, non ?
Tout à fait.
Erwan
On
Imbert.
Peut épaissir avec un petit peu de lentilles corail ou une pomme de terre fondante. Oui. Et là, on peut jouer dans toutes les textures dont parlait Amandine Chagnon. C'est-à-dire que, en fait, il y a des courges qui vont être légèrement plus aqueuses et qui vont devenir très très liquides à la cuisson. Et puis, il y en a sur lesquelles on peut faire carrément quelque chose de très costaud, qui va être plus une purée qu'une soupe. Et le tout en faisant des recettes simples. Moi, pour moi, le mieux, c'est de démarrer au four. On la coupe en quatre au four et à ce moment-là, on va sécher un peu la courge, ce qui permet très rapidement à la cuillère de récupérer la chair et d'en faire exactement ce qu'on veut.
Voilà, manger des potimarrons, des butternuts, plus d'autres courges, si on les trouve. Le problème, c'est de trouver les autres variétés. Pour l'instant, on les trouve dans votre livre. On les trouve chez Erwan Imbert, mais on n'en trouve pas énormément sur les étals des marchés. Peut-être, c'est un vœu pour 2025.
Hein. Il faut aller
à bon entendeur, salut. Oui. Merci en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Erwan Imbert, maraîcher de la ferme des Prés Neufs à Lompon-sur-Orge. Merci beaucoup à vous, Hélène Bordery, autrice de Tout courge toujours, un livre paru aux éditions Marabout, et votre recette de la tourte volaille champignons et courge sucrine est d'ores et déjà sur notre page Les Bonnes Choses sur franceculture.fr. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez, bien entendu, mais toutes les informations sont sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, c'est l'application de Radio France. Audrey Carme m'a aidé à préparer cette émission, Taïsia Froidure l'a réalisée. Aujourd'hui, Alexandre Dang était à la prise de son et nous vous souhaitons tous et toutes un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.